Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale pour prendre la direction de l'Italie. Nous allons retrouver en duplex de Rome un grand européen, Enrico Letta. Bonjour. En tant que membre du Parti démocrate, je rappelle que vous avez été ministre de l'Industrie de l'Europe, député européen. Vous avez dirigé le gouvernement italien de 2013 à 2014. Vous êtes surtout l'auteur d'un rapport sur le marché unique européen qui vient d'être remis aux 27 chefs d'État et de gouvernement au dernier sommet. Alors, vous avez rédigé ce rapport de 100 pages et pour cela, vous avez rencontré tous les dirigeants européens, les intellectuels, les chefs d'entreprise, des membres de la société civique, syndicats, associations. 400 meetings dans 65 villes européennes. Ce tour d'Europe vous aura appris quoi sur notre Europe ?
Ça m'a appris que c'est impossible de voyager en Europe par train haute vitesse. En Europe, il faut prendre l'avion pour rejoindre les différentes capitales, et c'est une honte, si je peux me permettre, parce qu'on est un continent petit, on a décidé de devenir un continent vert, et on ne peut qu'employer l'avion, ce qui est vraiment fou. Il y a seulement le train entre Bruxelles et Paris. Pour le reste, la folie, qui est un peu emblématique du problème du single market, du marché intérieur, c'est que à l'intérieur de nos pays, en France, vous voyagez par TGV. En Italie, vous voyagez avec le Frecciarossa. En Espagne, en Allemagne, c'est la même chose. Mais si vous devez passer d'une capitale à l'autre, hélas, il faut prendre l'avion. Franchement, ça a été une des découvertes très négatives de mon voyage. Je l'ai mise comme un élément fort, un grand projet pour rejoindre les différentes capitales par train haute vitesse. C'est aussi une façon de démontrer que le single market ne marche pas, parce que c'est la même chose avec l'énergie. Il n'y a pas de connexion entre pays. Aux États-Unis ou à la Chine, ils ont un marché unique, et dans beaucoup de secteurs dans lesquels nous, on est fragmentés, eux, ils sont capables de tirer tous les avantages d'un marché unique.
Alors, l'objectif de votre rapport est de changer d'échelle face aux États-Unis ou à la Chine et d'éviter un décrochage économique. Et ce décrochage, il a bien lieu en ce moment.
C'est un décrochage dramatique sur les plus importants indicateurs économiques, que ce soit l'innovation, que ce soit la croissance, sur les marchés financiers. On a des marchés financiers qui sont fragmentés en 27 marchés financiers. Donc, à la fin, toute opération financière se fait aux États-Unis. Vous savez, on a même ce paradoxe que notre épargne, à nous les Européens, notre épargne s'en va aux États-Unis parce que le marché américain est plus uni, plus fort et plus attractif.
Vous dites donc, 300 milliards d'euros par an épargnés par les Européens s'envolent vers les États-Unis.
Oui, c'est un chiffre que François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ont identifié. C'est vraiment, il faut partir de là, parce que c'est paradoxal que tout cet argent, nos épargnes, s'en va aux États-Unis, il alimente en actions les entreprises américaines qui se renforcent et reviennent en Europe acheter nos entreprises européennes avec notre propre argent. C'est une folie totale, et tout ça, non pas parce que les Américains sont méchants, pas parce que nous sommes naïfs. On n'a pas intégré nos marchés et en étant tous fragmentés et petits, on n'est pas capable de tenir la concurrence avec les Chinois et les Américains. Je ne suis pas en train de dire que nous devons faire de l'Europe quelque chose comme les États-Unis. L'Europe est belle parce que c'est un beau mix entre petits et grands. Et je veux tenir ce mix. Dans le rapport, il y a plein d'idées en faveur des PME, par exemple. Un passe-partout qui donne la possibilité d'avoir un seul système légal dans toute l'Europe et éviter donc de changer de régime commercial ou droit des affaires d'un pays à l'autre.
Votre rapport, Enrico Letta, il s'appelle « Beaucoup plus qu'un marché ». Vous voulez proposer d'utiliser cette épargne européenne pour financer les transitions vertes et numériques. Comment la capter d'abord et comment ensuite financer ces transitions qui font débat actuellement dans le débat public ?
Oui, le titre, beaucoup plus qu'un marché, est tiré de l'inspiration de Delors, de Jacques Delors, parce qu'il a toujours dit que le marché unique, en vérité, c'est les citoyens européens. C'est les opportunités pour les gens, le social est au cœur de tout ça. Pourquoi j'ai lancé cette idée d'une union de l'épargne, de l'investissement à la place de la vieille Capital Markets Union qui n'a jamais fonctionné? Parce que je ne veux pas la finance pour la finance. Je veux proposer une finance et la possibilité donc d'employer l'épargne avec des incitations fiscales qui le rendent rentable pour financer la transition. Et pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. Première raison, la transition coûte. Et il faut donc de l'argent pour rendre crédible la transition, qui est un choix important. Je suis en faveur de la transition verte, digitale et juste, mais il faut de l'argent pour la financer. Pourquoi de l'argent privé? Parce que je pense qu'il faut soit de l'argent privé, soit de l'argent public. Et en mettant de l'argent privé, on va convaincre les Allemands, les Scandinaves et les Pays-Bas, qui sont aujourd'hui contraires à une opération de cap de fiscalité commune au niveau européen, modèle Next Generation EU, de mettre aussi de l'argent public. Si on n'a pas ce côté privé, ce sera difficile de les convaincre d'avoir aussi possibilité d'un investissement public. Les deux choses vont ensemble. Ma proposition, comme toutes les propositions de mon rapport, sont concrètes et réalisables. Mon rapport n'est pas un livre de rêve. Il n'y a pas de changement de traité qui sont très compliqués à être mis en fonction que je propose. Je propose des réformes qui soient réalisables et rapidement réalisables parce qu'on n'a plus le temps. Le décrochage avec les US est en cours.
Alors, vous parlez effectivement de ces pays frugaux qui, avec l'Allemagne, sont réticents à faire des grandes mutualisations d'emprunts. Ça a été seulement le cas dans la crise post-Covid où on a finalement pu mutualiser notre dette pour mettre sur la table 750 milliards d'euros. Vous voulez justement mutualiser 10% des aides d'État et les augmenter. Ça n'est plus la stricte loi du marché et une Europe qui est souvent perçue d'ailleurs comme ultra-libérale.
Moi, je pense que les aides d'État doivent devenir plus européennes. C'est-à-dire, quand un pays demande un aide d'État, il faudrait qu'une partie de ces aides d'État soit employée pour l'opération européenne. Pour la raison que je vous disais auparavant, c'est-à-dire, si on continue avec des opérations seulement nationales, ça ne marche pas. Vous voyez, quel est le grand secteur européen dans lequel on gagne au niveau mondial? C'est Airbus. Imaginez-vous que dans le secteur de la construction des avions, on avait un Airbus italien, un Airbus français, un Airbus allemand, un Airbus espagnol. Ils seraient tous balayés par Boeing. Ils ne seraient pas capables de tenir la concurrence de Boeing. Airbus aujourd'hui gagne parce qu'il est grand, il a une échelle mondiale et donc il arrive à gagner. Mais tout ça parce qu'on intègre. Et cette intégration est fondamentale, surtout dans les secteurs qui ne sont pas intégrés aujourd'hui, c'est-à-dire télécom, énergie et surtout les services financiers avec cette idée de la création d'une union de l'épargne et de l'investissement.
Alors, et puis, n'oublions pas non plus le secteur de la défense, où il y a fragmentation, segmentation. 80% des matériels achetés par l'Europe pour aider l'Ukraine ne sont pas européens. Et vous dites que c'est le chiffre de la honte. Vous soutenez haut et fort l'idée du commissaire à l'industrie Thierry Breton d'un fonds de 100 milliards d'euros pour la production d'armes à l'intérieur de l'Union européenne. Et là, encore, j'ai envie de dire comment et avec quel argent?
Bon, évidemment, c'est un sujet qui doit être lié aussi à la création d'emplois. Et pendant ces deux dernières années, on a dépensé beaucoup d'argent pour soutenir l'Ukraine. Et on a bien fait à le faire et il faut continuer. Parce que la défense de l'Ukraine est la défense de nos valeurs aussi, contre cette folle agression russe. Mais pour faire ça, comme vous disiez, on a dépensé 80% de l'argent du contribuable français, italien, allemand, pour créer des emplois en Turquie, en Corée du Sud, au Michigan, au Wisconsin. Alors, moi, je pense que c'est important que l'argent du contribuable européen serve pour créer des emplois en Europe. Puisqu'on a une industrie de la défense qui est capable de générer des emplois, je pense qu'il faut viser dans cette direction. C'est pour ça que L'idée du commissaire breton est une bonne idée. C'est pour ça surtout que sur ce sujet, il faut vraiment mobiliser toutes les énergies de tous les pays européens. Il y a une proposition de la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui va dans la bonne direction. Je pense qu'il faut trouver un accord entre les 27. Mon rapport pousse dans cette direction.
Les dépenses militaires, d'ailleurs, ont augmenté de 6% pour s'élever à 270 milliards d'euros en 2023 dans l'Union européenne. L'Union européenne effrayée par la guerre en Ukraine et un possible retour de l'isolationnisme américain avec un Donald Trump. Quand le président français parle de crédibilité de la défense européenne et de troupes au sol, ça vous évoque quoi ?
Ça m'évoque le fait que le futur de l'Europe doit être un futur dans lequel nous devons être capables de répondre aux urgences avec nos moyens. Et ce point est un point incontournable. On a beaucoup trop attendu à se poser ce problème. Aujourd'hui, le moment est venu de poser le problème de l'indépendance de l'Europe. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait contre les États-Unis. L'Alliance Atlantique reste fondamentale, mais c'est quelque chose qu'il faut faire parce que, hélas, la plus grande partie des troubles se trouvent autour de nous, à frontières européennes ou à vraiment à distance très mince de l'Europe. Donc, c'est notre responsabilité à nous d'être en condition de sauver des vies humaines, d'amener la paix et de défendre les citoyens européens.
Enrico Letta, nous sommes à un mois tout juste des élections européennes. Quels en sont pour vous les principaux défis et enjeux ?
L'enjeu principal est celui de faire en sorte que cette sonnette d'alarme soit vraiment entendue par tous et que, comme je dis dans le rapport, on considère que l'inertie, ça veut dire le déclin. Il faut faire des changements importants, il faut intégrer davantage. Il faut être capable, sur les grands sujets de la compétitivité mondiale, d'avoir les aires basses qui sont capables de battre la compétition avec les autres et non pas d'être comme, hélas, ça se passe aujourd'hui, en condition de minorité. En même temps, les élections européennes, de mon point de vue, sont très importantes aussi pour trouver une voie pour l'avenir de l'Europe. Et là, je suis optimiste. Il y a 5 ans, lors des dernières élections européennes, moi, je me rappelle, j'étais cette période-là le doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, donc je vivais tout ça de Paris avec les étudiants, avec les enseignants de Sciences Po, et je me rappelle que la clé des élections européennes à l'époque s'appelait Brexit, Frexit, Italexit, Brexit. Le Brexit, au début, était devenu un brand qui faisait en sorte que les gens avaient une attraction très forte. Donc, en France, on parlait de Frexit, en Italie, de Italexit. Personne aujourd'hui ne parle plus de ça. Et je pense que ces élections sont des élections dans lesquelles même ceux qui étaient auparavant eurosceptiques aujourd'hui parlent de comment ils veulent gérer l'Europe. Moi, je prends tout ça comme élément positif. L'Europe a convaincu même les eurosceptiques. Et ceci est la démonstration de la force de l'Europe.
Alors, aux Pays-Bas, le débat sur l'immigration se durcit depuis la victoire de l'extrême droite de Geert Wilders aux dernières législatives en novembre. Nous partons en direction de ce pays où de plus en plus de grandes entreprises menacent de quitter les lieux car beaucoup recrutent leurs talents à l'étranger. Dans la région d'Eindhoven, incontournable bassin technologique en Europe, on s'inquiète du climat des affaires qui se détériore dans le pays. Reportage tout de suite d'Alix Le Bourdon et Fernand Van Tetz.
On l'appelle la Silicon Valley néerlandaise. À Eindhoven, dans le sud des Pays-Bas, et son immense parc industriel, baptisé Brainport. C'est là qu'ont élu domicile plusieurs fabricants de puces électroniques. Ces technologies sont des atouts majeurs pour l'Europe dans la course mondiale aux semi-conducteurs. Mais depuis la victoire de l'extrême droite aux dernières législatives aux Pays-Bas, ce directeur craint la tournure anti-immigration prise par le pays. Plus du quart de ses employés vient de l'étranger et cette part ne cesse d'augmenter.
Nous constatons qu'à l'heure actuelle, de nombreux employés étrangers sont très désireux de venir ici. Mais si le climat change et si vous commencez à montrer en tant que pays que vous n'êtes pas si ouvert aux étrangers et aux travailleurs intellectuels étrangers, vous commencerez à voir que ces personnes seront moins désireuses de venir aux Pays-Bas.
Une inquiétude partagée par plusieurs entreprises. Avec 40% de main-d'œuvre étrangère, le géant ASML a récemment fait trembler les autorités néerlandaises en menaçant de quitter le pays. Résultat, elles ont annoncé 2,5 milliards d'euros d'investissements publics dans le pôle d'Eindhoven, notamment en matière d'infrastructures et de logements. Mais rien qui ne modifie le programme anti-immigration du parti arrivé en tête aux élections, alors que les négociations pour trouver une coalition sont toujours en cours. À deux pas de ces entreprises, l'Université technologique d'Eindhoven. Ici, la quasi-totalité des cours est donnée en anglais. Résultat, 25% des étudiants viennent de l'étranger. En troisième année, cette étudiante turque n'écarte pas l'idée de chercher du travail ailleurs si le climat ne s'améliore pas.
C'est vraiment une situation difficile d'un côté comme de l'autre, je le comprends. Il y a des inquiétudes sur le logement, je le comprends très bien. Mais je crois aussi qu'en tant qu'étudiants internationaux, on apporte beaucoup de valeur ajoutée au pays.
Des diplômés internationaux et des entreprises stratégiques particulièrement courtisées par d'autres régions du monde, à l'heure où l'intérêt pour les semi-conducteurs ne cesse de croître.
Alors Enrico Letta, vous êtes italien, mais quand vous voyez des patrons néerlandais, c'est le cas aussi un peu en Allemagne, anxieux de la rhétorique anti-migrant de la droite la plus extrême, est-ce que vous avez constaté lors de votre tour d'Europe et pour votre rapport sur la compétitivité, peut-être l'apport de cette question migratoire ?
Premièrement, bravo pour ce reportage qui est très bien focalisé et qui touche un sujet énorme. En visitant les Pays-Bas, je me suis aperçu exactement de ça. Et quand je parle dans le rapport qu'il faut s'occuper non seulement de la liberté de bouger, mais aussi de la liberté de rester, je parle aussi du fait que le problème du brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, les gens qui émigrent surtout de la périphérie d'Europe, de l'Est ou du Sud, vers le centre et vers la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, ça crée un grand problème aussi dans les pays qui accueillent. Aux Pays-Bas, comme l'étudiante turque l'a raconté, la question du prix du logement, qui est aussi une question très forte et très importante en France, est devenue un sujet majeur. Donc, il faut que l'Europe s'occupe de ça aussi en créant des équilibres différents. Et en même temps, comme vous citiez, la question de la main-d'œuvre et de la possibilité d'attirer une main-d'œuvre aussi de l'extérieur et de faire en sorte qu'elle reste et qu'elle s'intègre est quelque chose de fondamental. Cette rhétorique anti-immigration est une rhétorique qui ne tient pas compte du fait que la chute démographique de l'Europe est tellement affreuse, désastreuse, que notre futur à nous passe à travers une bonne et efficace intégration des gens qui viennent de l'extérieur, avec lesquels nous devons partager le futur, l'avenir. Si nous n'arrivons pas à faire ça dans beaucoup de régions et de pays d'Europe, ça va être vraiment le déclin.
Enrico Letta, on parle beaucoup de vous pour une candidature à la direction de Sciences Po Paris, école dans la tourmente depuis la démission de son directeur, justement, Mathias Vichra, dans une affaire de violence conjugale, et évidemment en ébullition sur le dossier de la guerre entre Israël et le Hamas. Et est-ce que vous êtes d'abord intéressé ? Qu'est-ce que vous auriez l'intention de changer sur ces deux chapitres ?
J'aime Sciences Po, j'adore Sciences Po, c'est un lieu magnifique, prof exceptionnel, étudiant exceptionnel. L'affaire Gaza est une affaire qui est en train de créer des troubles partout dans les universités du monde et il est évident que l'attention autour de ces sujets est une attention qui est absolument particulière. Et autour de Sciences Po, évidemment, je vais décider dans les prochaines semaines. Vous serez les premiers à savoir quelle sera ma décision.
Merci à vous, Enrico Letta, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur RFI et France 24, où l'actualité internationale continue, bien sûr.